pédagogie d'histoire, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris-Est-Créteil, et qui a notamment écrit un livre remarqué intitulé « Comment notre monde a cessé d'être critique ». Voilà, et donc ce soir, nous écoutons nous parler du modernisme.
Bien, écoutez, merci de votre invitation en tout cas, puis moi j'étais ravi de venir ici à la messe, elle est tellement belle cette église que je ne voulais pas rater ça, indépendamment même de la messe. Mais j'ai cru comprendre que vous aviez un cycle et que du coup j'ai bougé dans le cycle, donc peut-être que la logique d'ensemble est un peu bouleversée. On vous a parlé de quoi jusqu'à présent finalement comme hérésie ? D'accord. D'accord. Ok. Donc, quand on m'a invité, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est une vraie question que celle de savoir effectivement qui nous paraît pour nous aujourd'hui peut-être un petit peu étonnante que l'Église ait souvent eu à préciser sa doctrine, à la définir, à accoucher de la vérité d'une certaine façon tout en condamnant des hérésies, où finalement la condamnation de l'erreur est l'occasion d'accoucher de la vérité. Et c'est vrai qu'on oublie parfois un peu que, par exemple, dans les promulgations de canons conciliaires jusqu'au Concile de Vatican I en 1870, quand on promulgue les canons, il y a toujours une formule: si quelqu'un dit ceci ou cela, qu'il soit anathème. Voilà, si quis dixerit, anathema sit. C'est comme ça qu'on promulgue. Ce qui a disparu à Vatican II. À Vatican II, on ne promulgue plus les canons comme ça. Mais encore à Vatican I, on le fait, ce qui montre bien que la matrice, d'une certaine façon, est encore très en place à cette date, ce qui n'est plus le cas après. Donc, on m'a demandé de vous parler du modernisme. Probablement que beaucoup de nos contemporains, y compris, je pense, parmi les catholiques, ne savent plus très bien ce que c'est que le modernisme. Si tant est que ça leur dit quoi que ce soit, j'en veux pour preuve, hein, je pensais à ça en venant vous voir, j'ai lu il y a quelques jours, dans Le Monde, le quotidien Le Monde, qui autrefois connaissait son catholicisme, un article nécrologique très long à propos d'un grand théologien, enfin d'un théologien grand, c'est peut-être beaucoup dire, mais une figure, hein, disons, de la théologie du XXe siècle, qui s'appelle Hans Küng, qui vient de mourir, et le chapeau de la notice nécrologique, c'était un théologien moderniste, sans guillemets. Un théologien moderniste, et l'auteur de l'article, Nicolas Veil, ne pensait pas à mal, parce qu'il s'agissait de montrer que le théologien en question était, disons, favorable à la modernisation de l'Église et à son ouverture à l'égard de la modernité. C'était un compliment qu'il lui faisait. Donc, il croyait peut-être pas si bien dire, mais le fait est qu'on sentait que Nicolas Veil ne savait plus très bien ce que ça voulait dire que moderniste. En tout cas, quand on dit moderniste à propos d'un catholique, on met des guillemets. On signale qu'on sait que le terrain est un petit peu piégé, un peu équivoque, pas de guillemets. Bon, donc j'en ai déduit que même au Monde, on ne sait plus très bien ce que c'est que le modernisme, et on distribue l'étiquette sans trop réfléchir. Alors, question qu'on peut se poser, c'est peut-être d'abord, de prime abord, est-ce que le modernisme est une hérésie ? Est-ce que c'est une hérésie au sens, je dirais, un peu trivial du terme, de doctrine religieuse déviante par rapport à l'orthodoxie ? Je dirais, en première approximation, oui et non. Oui, parce que si vous lisez l'encyclique du pape Pie X, Pascendi, septembre 1907, qui consacre le terme et qui en donne une définition, le modernisme est non seulement défini comme une hérésie, mais comme le rendez-vous de toutes les hérésies. Donc une sorte de super-hérésie, d'hérésie capitale, génératrice d'hérésie secondaire, un peu comme les péchés du même nom. Oui, c'est non seulement une hérésie, mais ce serait l'hérésie par excellence, qui supposerait d'ailleurs qu'avant 1907, les hérétiques du passé aient fait du modernisme sans le savoir, mais on peut en faire sans le nom, et que l'occasion permettait d'identifier une sorte de racine de l'hérésie à travers ce que Pie X appelait en 1907 le modernisme. Donc oui, c'est une hérésie, mais en même temps, c'est quand même une hérésie spéciale, parce que c'est, au fond, le modernisme, on va y revenir, c'est l'enfant d'un certain rationalisme du XIXe siècle, appliquée notamment à l'exégèse biblique, et donc plutôt d'une critique de la religion que d'une forme, d'une doctrine religieuse déviante, si vous voulez. Oui et non. C'est quand même une hérésie d'un genre particulier, une hérésie très moderne à certains égards, parce qu'elle est très largement la fille d'un certain rationalisme issu du XIXe siècle ou de la fin du XVIIIe siècle, appliqué aux Écritures. Donc, je pense souvent à cette formule d'un des grands esprits du XIXe siècle, Ernest Renan, qui a quelque chose un peu à voir avec cette affaire de modernisme, ou avec sa préparation, ou sa préhistoire. Ernest Renan est mort en 1892, donc 10 ans avant les débuts de la crise moderniste, et il disait souvent « Nous autres Européens, nous ne sommes plus assez religieux pour être hérétiques. » Voilà. Au fond, on n'a plus assez de religion pour produire de l'hérésie. Donc, au mieux, on produit des doctrines de sortie de la religion, des façons d'en sortir à reculons, mais on n'a plus assez de peps métaphysique, en quelque sorte, pour engendrer de l'hérésie, parce que c'est, pour l'historien, un signe paradoxal, si on veut, mais de vitalité religieuse que l'hérésie. C'est-à-dire que ça intéresse les gens, on cogite, on développe, peut-être dans le mauvais sens parfois, mais enfin, c'est vital. Bon, alors. Donc, oui et non. Oui, c'est une hérésie, si j'en crois Pidis. Non, en ce sens que c'est quand même plus la fille d'un certain rationalisme qu'une doctrine religieuse déviante. Alors, en fait, tout dépend un peu de ce qu'on entend par modernisme. Et c'est le problème, en fait. La bibliographie sur le sujet, en plusieurs langues, tourne autour du problème de savoir ce que c'est, au fond. Et c'est un peu toujours pareil avec les hérésies. On se demande toujours de quoi il s'agit exactement. Il y a, je dirais, le modernisme théorique du magistère, tel qu'on peut en reconstituer le concept. Et puis, les historiens qui arrivent derrière se demandent à quoi ça correspond dans la réalité du temps. Le modernisme des modernistes, tel que les historiens peuvent le reconstituer, et il y a un écart, évidemment, de l'un à l'autre. Jusqu'à quel point, comment réconcilier les deux, c'est évidemment la difficulté, mais il y a un problème pour cerner l'objet. Bon. Alors, je crois qu'il faut, distinguer peut-être deux choses. Le mot lui-même, du concept. Le mot lui-même, ça, on peut y arriver. Si vous regardez quelques outils un peu lexicographiques classiques, je pense par exemple au dictionnaire historique de la langue française d'Alain Rey, qui est maintenant complètement dépassé d'ailleurs, parce que depuis qu'on a Ngram Viewer de Google, on s'aperçoit qu'Alain Rey, il a faux une fois sur deux. Hein. C'est ça que c'est extraordinaire. Maintenant, on a des outils incroyables. Mais peu importe, ça restait une somme, eh ben, il montre que ça existe déjà, le terme modernisme, au XVIIIe, au XIXe siècle. Souvent, ça existe dans une acception littéraire et artistique comme synonyme de goût de l'innovation. Voilà. Donc ça existe déjà, ça existe avant que Pidis s'en empare, en 1907. Mais si vous regardez la base lexicométrique de Google, la Ngram Viewer, regardez, modernisme commence à se diffuser vers 1880. Ça décolle à ce moment-là, vers 1880, et plus encore après 1900. Et ça correspond à la fin du 19e, début 20e siècle, au début, je crois, de ces usages ecclésiastiques. À la fin du 19e, au début du 20e siècle, donc avant que Pidis ne s'en empare, le terme modernisme est déjà employé dans une certaine littérature ecclésiastique, souvent plus italienne que française d'ailleurs, ça vient plutôt d'Italie. Ça va transiter à Pascendi en 1907. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça signifie dans cette acception un peu italienne, ecclésiastique du début du siècle? Je vais vous donner un exemple d'un personnage qui est très oublié aujourd'hui, mais qui a joué un rôle important dans cette histoire, qui s'appelle Umberto Benigni, qui était un intégriste, si vous voulez, entre guillemets, fondateur d'une société secrète qui s'appelait la Sapinière, qui s'était donné pour mission de traquer les modernistes dans l'Église, et qui a fait régner un climat de terreur terrible au début du XXe siècle. Et Benigni est un personnage très intéressant, sur lequel a travaillé un des grands spécialistes du modernisme qui s'appelle Émile Poulard. Et Benigni emploie lui-même le terme modernisme au tout début du XXe siècle, et chez lui, ça désigne un amour excessif de la modernité. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, la modernité, c'est bien par définition. un goût du nouveau parce que c'est nouveau, indépendamment de l'examen de chaque aspect de cette nouveauté qui pourrait conclure tantôt en un sens, tantôt en l'autre. Une sorte de position de principe, de valorisation de principe de la modernité, avant même examen, en quelque sorte. Un peu comme le militarisme est un amour excessif de la chose militaire, ou l'industrialisme un amour excessif de l'industrie. Mais le modernisme serait un amour excessif de la modernité, une sorte de position de principe qui fait l'économie de l'examen des différents aspects de cette modernité, en présumant que ça devrait toujours se conclure à son bénéfice. Donc ça, c'est la position, c'est la définition d'un Benigni au début du XXe siècle. Donc ça existe, voilà. Ça existe, et quand Pidis va s'en emparer, c'est le moment où ça décolle chez Engram Viewer. Voilà. Donc, en un sens, il est quand même au début de la vague, hein, c'est assez nouveau. Je pense que les lecteurs français du début du XXe siècle, ils ont un peu découvert le terme en lisant Pidis. Hein. C'était quand même très peu employé, sauf effectivement dans certaines acceptions artistiques, littéraires. Mais c'est lui qui invente un peu le concept, mais le terme date de la fin du XIXe, début du XXe siècle. Alors, ça c'est le terme, c'est une chose. Il y a ensuite la question de savoir ce que ça désigne. Comment, plus exactement, le magistère le définit, indépendamment de la question complexe de savoir si dans la réalité ça correspond à quelque chose. En tout cas, le concept du magistère, c'est quoi? Alors, il faut lire cette littérature. Du magistère, je ne sais pas si certains d'entre vous ont dans leur bibliothèque, j'y suis retourné pour venir, moi j'ai dans ma bibliothèque ce qu'on appelle le Denzinger, c'est du nom d'un théologien allemand du 19e siècle qui a publié sa première édition en 1854, c'est le recueil des textes du magistère, et c'est actualisé, donc ça va jusqu'à nos jours, c'est épais comme ça, vous avez tout là, bon, c'est une sorte de manuel, un super manuel, vous avez le dossier à chaque fois. Bon, donc, vous allez à Modernisme, dans l'index, et puis vous lisez tous les textes. Bon, alors, tous ces textes, ils datent, des années 1903-1914, pour l'essentiel. Ça correspond à une bonne partie du pontificat de Pidis. Alors, il y a quoi comme texte? Bon, il y a deux textes essentiels. C'est le décret Lamentabili, d'abord, qui est un ensemble de propositions qui sont considérées comme modernistes et condamnées, mais le terme moderniste n'est pas dans le décret Lamentabili de juillet 1907. Le terme n'est pas employé, mais enfin, c'est bien de ça dont il s'agit. Il y a toute une série de propositions qui sont assez modérées. Hein, on n'est pas encore dans la grosse artillerie. La grosse artillerie vient juste après, en septembre 1907, et là, c'est la fameuse encyclique Pascendi de Pidis, qui est un texte qui n'a pas très bonne réputation aujourd'hui dans les milieux catholiques, sauf peut-être dans certains milieux traditionnalistes qui ont une affection particulière pour Pidis, mais à tort, parce que c'est un texte très intéressant. C'est un texte très intéressant, mais qui a une réputation comme ça, mais qu'on se dispense de le lire, parce que quand on va y voir, alors, il y a un ton très étrange, qui est étrange pour nous, parce que on n'est plus habitué à entendre les papes parler comme ça. Mais ce n'était pas si exceptionnel que ça au XIXe siècle. Je veux dire, un ton très alarmé et très alarmiste, presque un peu apocalyptisant, en disant « Ouh là là, ça se passe tellement mal qu'il va se passer quelque chose. » La situation est si catastrophique que ça donne à penser qu'on est au bord de quelque chose. Bon. Donc il y a vraiment un ton très alarmé, presque un petit peu pamphlétaire. Ça ressemble un petit peu au journaliste intransigeant du XIXe siècle. Je pense par exemple à cet immense journaliste qui est un très grand écrivain, qui est Louis Veuillot, au XIXe siècle. Louis Veuillot, plus personne ne le lit, mais bien à tort, c'est un des plus grands écrivains du XIXe siècle. Plus personne ne le connaît que parce que le mal qu'en dit Victor Hugo. Victor Hugo le détestait, que les écoliers ne lisent plus que les châtiments, ils ne connaissent Victor Hugo que Veuillot que par les châtiments. Donc il faut aller lire Veuillot. Et Veuillot est un pamphlétaire. Et il y a un petit côté pamphlétaire dans Pascendi qui est assez inhabituel dans le ton des encycliques. Hein. Mais pas complètement inhabituel. Si vous lisez Miraribus de Grégoire XVI en 1832, hein, c'est vrai qu'il monte sur le trône pontifical au lendemain d'une révolution terrible, dans des conditions atroces. Bon, eh ben le ton est très apocalyptisant. Si vous lisez même quelques encycliques de Léon XIII, Léon XIII qui est censé être un pape très, très pondéré, et qui de fait est un pape très pondéré, a aussi des encycliques très vigoureuses. Vous lisez la condamnation de la franc-maçonnerie en 1884 par Léon XIII, le ton est extrêmement vif. Donc ce n'est pas spécifique à Pidis, ça existe déjà avant, dans certains moments, un petit peu d'inquiétude et de tension. Alors, il faut lire Lamentabili, il faut lire Pascendi, et puis il faut lire le serment antimoderniste que le clergé a dû prêter avant ordination de 1910 à 1967, officiellement, il a été abrogé officiellement en 1967, le serment antimoderniste. C'est toute une série d'engagements que le clergé prenait. C'est très intéressant. Ça a été rédigé par un Français qui s'appelle Louis Billot, qui était un des grands théologiens romains de l'époque. Il était français, il enseignait à la Grégorienne, à Rome, la grande université jésuite. Et c'est un des proches conseillers de Pie X. C'est lui qui a rédigé ce serment antimoderniste, de même que c'est lui qui a rédigé en partie Pascendi avec un autre Français. Comme quoi, c'est très intéressant cette affaire parce qu'il y a des Français partout. Il y a des Français derrière la massue et sur l'enclume. Donc il y a des Français romains, des Français modernistes, et il y a un autre théologien qui s'appelle Jean-Baptiste Lemius, qui est très oublié, lui plus encore que Billot, mais qui est un des rédacteurs de l'encyclique, qui est un personnage intéressant aussi, et qui est derrière ces textes. Donc, Lamentabili, parce qu'elle dit, le serment antimoderniste 1910, et puis il faut lire aussi, pour y voir un peu clair, parce que le problème biblique est très central dans cette affaire de modernisme, les différentes décisions de la commission biblique pontificale que Léon XIII avait créée sous son pontificat et que Pie X a maintenu. Et cette commission, peuplée de spécialistes de ces questions bibliques, rend un certain nombre d'arrêts, de décisions sur des sujets sensibles de ce qu'on appelle la question biblique. À l'époque, il y avait des questions sensibles. Alors, est-ce qu'il y a un ou deux Isaïe? Est-ce que les évangiles synoptiques sont d'accord entre eux? Est-ce que Saint Jean est bien l'auteur de l'évangile de Saint Jean? Est-ce qu'il y a toute une série de questions de ce genre? Est-ce que Moïse est l'auteur du Pentateuque ou complètement, à moitié? Il y a ces grandes questions qui sont les questions exégétiques, bibliques, et la commission en question prend des décisions. Voilà. Il y en a plusieurs, elles sont plus ou moins importantes. Il y en a une qui est quand même importante. En 1909, on peut l'ajouter au corpus, en 1909, cette commission, mais là aussi, ces textes, il ne faut pas les lire trop vite, hein, parce qu'ils sont pesés au mot près. Et la commission biblique, en 1909, dit qu'il faut tenir pour historique ce que racontent les trois premiers chapitres de la Genèse. Il faut tenir pour historique. Bon, tout, le paradis originel, la chute, et que ce n'est pas simplement du concept de la fable mystique, de la mythologie, de la légende, mais que ça renvoie bel et bien à une histoire. Mais en même temps, jusqu'à quel point c'est historique? Est-ce que chaque mot propre doit être tenu comme tel? Il y a des nuances, évidemment, dans le texte, qui fait qu'on devine déjà par où on va pouvoir passer, même si le but est quand même de serrer les vis. Dans ces années-là. Donc il y a toute une série de corpus. Alors, c'est quoi le modernisme? Alors, si vous lisez Pascendi, par exemple, qui est quand même le texte de référence, où le terme est introduit et où Pie X le reprend à son compte, on voit bien que, au fond, le modernisme fonctionne comme une sorte de récupérateur de toute une série d'ismes mal notés par les théologiens romains du XIXe siècle. Il y a le modernisme, une sorte d'hérésie mère, et à l'intérieur, il y a plein de petits ismes néfastes qui sont énumérés. Et vous avez une espèce de liste de doctrines déviantes qui ont été identifiées par les théologiens romains dans les décennies précédentes. Alors, en relisant ça, je voyais ça, rationalisme, immanentisme, indifférentisme, ça aussi c'est intéressant, ça fait de l'indifférentisme, relativisme, américanisme, naturalisme, voilà, toute une série d'ismes, il y a l'isme du modernisme, puis il y a tous les petits ismes secondaires, dont le modernisme est en quelque sorte la synthèse, une sorte de cocktail, de pot-pourri, qui rassemble tout ça, une sorte d'hérésie monstrueuse à plusieurs têtes, que Pie X commence par décrire, en quelque sorte. Bon. Alors, c'est un produit composé. Dans le serment antimoderniste de 1910, il y a 13 propositions, 13 engagements différents. C'est en même temps donc toute une série de doctrines, et c'est en même temps une attitude générale vis-à-vis de la modernité, qui est, je dirais, pour dire les choses rapidement, cette idée qu'au fond, quand on cherche la conciliation ou la réconciliation avec la modernité, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, Epidis ne nie pas du tout que ça puisse être pour de bonnes raisons, pour des motivations pastorales, on peut avoir la tentation de passer une sorte de transaction illégitime avec cette modernité en renonçant à une partie de la vérité du christianisme sur l'autel de la réconciliation avec cette modernité. Et c'est ça l'attitude générale qui est épinglée par-delà les différentes doctrines déviantes. Alors, je ne peux pas rentrer dans chacun de ces ismes qui est constitutif du modernisme lui-même, mais la question centrale, c'est l'histoire. C'est l'histoire appliquée aux origines du christianisme. À la fois la Bible, mais aussi l'histoire de l'Église, l'histoire des dogmes, l'histoire des sacrements. Voilà. Donc la Bible, l'histoire de l'Église, l'histoire des dogmes, l'histoire des sacrements. Le 19e siècle, dit-on souvent, et à juste titre, c'est le siècle de l'histoire, bon, où l'histoire acquiert une centralité nouvelle dans le dispositif intellectuel, et au fond, le modernisme est l'hérésie du temps, dans la mesure où c'est l'histoire appliquée, cette nouvelle histoire dite critique, appliquée aux origines du christianisme, qui suscite tous ces problèmes, et en particulier ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique, qui vient plutôt des pays protestants, d'Allemagne en particulier, dont les catholiques sont restés un peu en marche pendant assez longtemps, et puis ils y sont venus un peu tardivement chez les Français, disons dans les années 1870-1880, et là ils se sont engagés dans un processus de rattrapage, en quelque sorte, de leur retard biblique, rattrapage accéléré, et c'est, je dirais, à la sortie de ce rattrapage que le drame se produit, d'une certaine façon. Il y a une mise à niveau catholique, en fait, qui se fait à ce moment-là, dans le dernier tiers du XIXe siècle, soit parce que des catholiques vont dans les pays, dans les universités protestantes ou allemandes, soit parce que ils se sont formés sur place. C'est aussi le moment où les instituts catholiques sont créés, hein, c'est la loi sur l'enseignement supérieur de 1875. Bon, donc le principal personnage de la crise du modernisme, qui est un exégète français qui s'appelle Alfred Loisy, qui est un prêtre et qui enseigne à l'Institut catholique de Paris, est très typique de ce processus de rattrapage catholique en matière d'exégèse biblique, et c'est par lui que le problème va venir. En France, avant de parler de modernisme, en 1907, on parlait de loisisme. C'était au fond le nom de l'hérésie avant que Pidis la rebaptise, d'une certaine façon, c'est vous dire si ça vient vraiment de la question historique, et dans la question historique de la question biblique, à travers ce personnage qu'est Alfred Loisy, qui publie en 1902 un petit livre que vous pouvez lire, qui est aujourd'hui encore très intéressant, qui s'appelle « L'Évangile et l'Église », et c'est ce petit livre de 1902 qui met le feu aux poudres, en quelque sorte. Un petit peu comme Renan avait effrayé tout le monde en 1863 en publiant La vie de Jésus. Mais c'est plus technique et plus savant, l'Évangile et l'Église en 1902, et c'est ça ce qui déclenche en quelque sorte la crise. Donc le modernisme, c'est d'abord un problème d'histoire. Pas seulement d'histoire, parce qu'en fait, il y a plusieurs déclinaisons du modernisme. Il y a un modernisme philosophique. À l'époque, on parle beaucoup du kantisme, qui est un kantisme plus ou moins imaginaire, mais qui est censé être l'hérésie philosophique. Il y a un modernisme théologique, spirituel, social, pastoral. Ensuite, on a décliné le concept et on en a trouvé toutes sortes de formes dispersées, mais la forme principale, c'est la question historique. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un phénomène si passionnant à étudier pour les historiens eux-mêmes, a fortiori pour les historiens croyants, historiens chrétiens, parce que le problème fondamental, c'est quelle est la bonne distance à son objet quand on est un croyant qui prétend faire de la science comme les autres, entre guillemets, ou de l'artisanat d'art comme les autres, c'est peut-être plus juste, c'est-à-dire de l'histoire. Comment on fait? Quelle est la bonne distance? Est-ce qu'il y a une position idéale? Comment est-ce qu'on pense ça, le rapport à son objet? Quand on est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, c'est évidemment l'objectif, hein, c'est de pouvoir en parler aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. Si vous n'êtes jamais entré dans l'objet, il y a des trucs qui vous manquent, parce que vous ne savez pas très bien de quoi vous parlez. Et en même temps, il faut pouvoir le regarder de l'extérieur, parce que sinon, vous en parlez comme un croyant, mais vous n'avez pas de plus-value scientifique. Donc il faut pouvoir dans la recherche, cumuler les deux, être à la fois capable d'en parler de l'intérieur et capable d'en parler de l'extérieur. Il y a d'ailleurs un très beau passage dans le serment antimoderniste à propos de l'historien croyant, où le serment antimoderniste dit « Vous n'êtes pas appelé, vous autres historiens croyants, vous n'êtes pas appelé à la schizophrénie. Vous ne pouvez pas être des schizophrènes. » Des types qui sont tantôt en mode croyant, tantôt en mode scientifique, et qui passent de l'un à l'autre, il faut penser la synthèse, il faut y arriver. Bon. Ça me fait penser à un très beau livre, que, si ces problèmes intéressent certains d'entre vous, qu'avait dirigé Jean Delumeau, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle « L'historien et la foi ». Il avait posé la question à toutes sortes de spécialistes de l'histoire du christianisme, de l'Antiquité à nos jours, qui étaient des croyants par ailleurs, en disant « Mais comment vous faites-vous dans votre quotidien ? Ça marche comment ? Comment vous articulez ? Est-ce que vous avez pensé le problème d'abord ? Parce qu'on peut ne pas penser le problème. Et si vous l'avez pensé, quelle solution vous avez trouvée ? » Bon, voilà typiquement un problème issu de la crise moderniste et que la crise moderniste a abordé. Alors, quand je dis le problème, c'est l'histoire. On peut même être un peu plus précis que ça. Le problème, c'est l'historicisme. À nouveau un isme. L'historicisme, c'est-à-dire un certain usage de l'histoire, de la nouvelle histoire critique issue du XIXe siècle, appliqué au problème des origines chrétiennes, qui est considéré comme déviant, en ce sens que soit on accorde trop de crédit aux conclusions de cette histoire, soit on prête peut-être trop d'importance aux conséquences théologiques de ces conclusions. Voilà. Soit on fait trop confiance au premier exégète qui vient en disant « on a longtemps pensé que Saint Jean était l'auteur de l'évangile de Jean, mais en fait non, etc. Bon. » Donc parmi d'autres hypothèses, on lui accorde trop de crédit, soit on va tirer trop rapidement des conclusions doctrinales radicales de conclusions scientifiques, historiques, qui sont plausibles, probables, les coefficients de certitude et d'incertitude extrêmement variables, mais à partir de là, l'historicisme, c'est ça, c'est au fond une histoire qui va un peu au-delà de ses conclusions légitimes, soit dans le périmètre qui est le sien, des faits historiques, soit indirectement des conclusions théologiques qu'on tire des faits qu'ils prétendent avoir mis en évidence. Bon. Le grand texte à lire là-dessus, qui à mon avis, alors c'est un peu subjectif, mais qui est le plus grand texte de la crise moderniste, le plus intéressant, le plus riche, c'est un texte qui est un peu difficile à trouver, parce qu'il n'a pas été réédité depuis longtemps, de Maurice Blondel, le philosophe Maurice Blondel, « Histoire et dogme ». 1907, c'est un texte assez difficile. Hein. Blondel, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut lire sa correspondance. C'est plus facile en entrant par la correspondance ensuite d'aller à ses textes. Et sa correspondance a été publiée presque intégralement, notamment par le cardinal de Lubac, dans la fin des années 50, début des années 60. Alors, Histoire et dogme, c'est extraordinaire. Moi, je l'ai relu très attentivement il n'y a pas longtemps pour un article. C'est vraiment bluffant. Histoire et dogme, c'est vraiment bluffant. Faut s'accrocher. Hein. Parce qu'il y a des parties très, très techniques. On a tendance à survoler, mais quand on fait l'effort d'aller voir, c'est bluffant. Lui-même, d'ailleurs, c'était pas un illuminé, hein, Blondel, mais lui-même avait eu, on voit ça dans ses correspondances, avait vraiment eu le sentiment d'avoir été inspiré en rédigeant Histoire et dogme. Je le crois volontiers parce que c'est extraordinaire. C'est vraiment, il déploie toute la complexité de ses problèmes sans l'écraser, en trouvant des solutions véritablement intellectuelles. C'est rare, ça. Donc c'est un texte extraordinaire. Or c'est lui qui introduit en français ce terme d'historicisme qui existe en allemand, mais il l'introduit en français, histoire et dogme, et il fait de l'historicisme au fond l'erreur capitale du modernisme, en tout cas du modernisme d'Alfred Loisy, parce qu'en fait histoire et dogme est la réponse de Maurice Blondel à l'Évangile et l'Église d'Alfred Loisy et le petit livre qui a suivi en 1903. C'est un dialogue Loisy-Blondel qui a tourné un peu court, mais qui a été ils se sont quand même mieux compris mutuellement, et Blondel a cerné le problème, je crois, et a dit des choses tout à fait passionnantes là-dessus. Alors, quand on dit historicisme, si on y va un peu plus en détail, donc un abus de l'histoire, en quelque sorte, historicisme comme abus de l'histoire, dans ces matières religieuses, les origines du christianisme, où l'histoire tirerait des conclusions excessives. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai le sentiment, mais j'ai le sentiment qu'il y a trois choses dans l'historicisme. Il y a trois problèmes dans l'historicisme. Il y a un premier problème qui avait déjà été posé avant la crise moderniste, notamment sous le Second Empire, dans les années 1850-1860, dans des controverses entre catholiques. C'est ce que les théologiens romains du XIXe siècle appellent le naturalisme. Et ce qu'on peut appeler, concernant le modernisme, le naturalisme historique. Alors c'est quoi le naturalisme historique? C'était le restaurateur des bénédictins de Solesmes, Don Guéranger, qui avait baptisé ça naturalisme historique dans les années 1850, dans une controverse entre catholiques, catholiques libéraux, catholiques intransigeants. Il y a une sorte de controverse fleuve dans les années 50, dont Guéranger est un des principaux protagonistes. Et qu'est-ce qu'il appelait le naturalisme historique? Le naturalisme historique, c'est le fait, en histoire religieuse, de remplacer systématiquement les explications surnaturelles par des explications naturelles. C'est-à-dire là où on dit « Ah, ben là, Dieu est intervenu de telle ou telle manière », on cherche des explications naturelles qui complètent ou, si on finit par saturer complètement l'horizon des explications, rendent superflu les explications surnaturelles. Et à la limite, les rendent impossibles. C'est-à-dire que vous saturez le champ des explications en échangeant systématiquement les explications surnaturelles par des explications naturelles, et c'est ça ce que les théologiens romains appelaient le naturalisme. Et c'est ça ce qu'ils avaient identifié, ce que Don Guéranger avait identifié comme un problème, à propos, non pas de l'exégèse biblique, mais de l'histoire des débuts de l'Église, notamment de la christianisation de l'Empire romain. Où il y avait plein de miracles dans cette histoire traditionnelle. Ah ben voyez, c'est formidable, on a christianisé l'Empire romain en 4 siècles, c'est bien la preuve que, un peu comme les musulmans disent, voyez, on a fait la conquête du monde en 150 ans, c'est bien la preuve que. Bon, donc, les catholiques libéraux de l'époque étaient un peu plus prudents et avaient montré qu'au fond, ça ne dispensait pas les catholiques de faire l'inventaire des facteurs naturels qui avaient pu contribuer à cette victoire ou à cette situation. Bon. Et un certain nombre de catholiques plus traditionnels se disaient « Ah oui, mais si on commence à dire ça, où on va s'arrêter ? Parce qu'on pourrait bien finir par ne plus avoir besoin d'une explication surnaturelle. » Et c'est tout l'enjeu. Elle est passionnante, cette controverse entre Don Guéranger et Albert de Broglie dans les années 1850-1860, un catholique libéral, un catholique intransigeant. Et je crois que Don Guéranger voit bien le problème, même si lui-même fait de la très mauvaise histoire de l'Église. C'est comme quoi on peut être bon dans la détection des problèmes posés par une certaine pratique scientifique et très mauvais dans la pratique elle-même. Bon. Alors que Broglie, au contraire, était un bon historien, qui avait du flair, etc., mais qui était moins conscient ou moins sensible que Guéranger aux problèmes que sa pratique posait. Donc, naturalisme historique. C'est d'abord ça, c'est un naturalisme historique. Vous pratiquez l'exégèse biblique et vous rendez compte, au fond, des faits bibliques sans avoir besoin de recourir d'aucune sorte, ni de près ni de loin, à des causes dites surnaturelles. Si ensuite, ce que les théologiens romains d'époque appelaient aussi un évolutionnisme, c'est-à-dire mettre en évidence les variations de la tradition chrétienne depuis ses origines, en montrant qu'elles sont très importantes, et en déduire que les prétentions à la continuité de l'Église sont fallacieuses, parce qu'en fait, elle a changé de régime plusieurs fois sans le dire, mais qu'elle s'arrange pour effacer les coutures, pour lisser les ruptures, pour refaire la façade, mais derrière, ça change. Voilà, c'est un peu ce que suggère Burke aux révolutionnaires français dans ses livres extraordinaires, La réflexion sur la révolution de France. Il dit les Français sont idiots, il ne faut pas abattre les façades, garder la façade, l'hôtel du XIVe siècle est là, puis derrière, vous faites les appartements. Bon, donc les contenus changent, mais la façade est la même. Bon, donc c'était un peu ça l'idée, c'est que ça a beaucoup changé, même si on s'efforce, tels les Apaches, d'effacer les traces des changements à mesure qu'on avance, ça a énormément changé. Donc la prétention à la continuité est illégitime, d'une part, et d'autre part, en un sens, ça libère le futur, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on s'arrête en si bon chemin. C'est-à-dire qu'on a déjà tellement changé par le passé qu'on peut encore changer aujourd'hui, demain et après-demain. C'est ça l'évolutionnisme. Bon. Donc il y a aussi ce problème-là, ce problème qui est de s'exagérer l'ampleur des mutations, la radicalité de ces mutations, pour éventuellement de bonnes intentions, qui seraient d'aider l'Église du présent à sortir de ses impasses, de ses ornières, en lui ôtant ses scrupules, en lui disant « Oui, bon, ben, votre doctrine est impossible, elle est incroyable, elle ne passe plus, eh ben, enterrez-la, passez à autre chose, refaites-en une. Bon, » voilà. Donc, évolutionnisme. Ça aussi, c'est un isme bien identifié par les théologiens romains. Alors, il y avait une formule très célèbre à l'époque, qu'on citait beaucoup pour illustrer cet évolutionnisme, formule d'Alfred Loisy, dans ce petit livre que j'ai évoqué tout à l'heure, l'Évangile de l'Église, 1902. Parlant de Jésus, Alfred Loisy disait « Jésus annonçait le royaume, un royaume qui devait survenir à court terme, et ils étaient tous comme ça sur les starting blocks, en disant « ça va, on n'en a plus pour très longtemps », et c'est pour ça qu'ils avaient une énergie extraordinaire, parce que la temporalité était courte. Donc Jésus annonçait le royaume, et c'est l'Église qui est venue. Voilà. Ça c'est la formule de Loisy. Bon. Et puis l'Église, s'apercevant que le royaume ne venait pas, a pris la place du royaume, d'une certaine façon, et s'est installé dans la durée. Et depuis, nous continuons de l'attendre, mais on n'est plus si pressé que ça, d'ailleurs, parce que finalement, c'est assez confortable. Bon, voilà. Donc, la formule était belle, la formule de Loisy, Jésus annonçait le royaume, c'est l'Église qui est venue, et voilà, c'est la formule symbolique de cette évolution. Et puis, je dirais, dans l'historicisme, il y a un troisième problème, on le sent très bien, notamment dans les avis de la Commission biblique pontificale, c'est qu'au fond, à force de mettre en évidence, je dirais, les éléments symboliques, voire légendaires ou mythologiques de l'Écriture, de finir par dissoudre ou faire perdre de vue l'historicité de la foi. C'est-à-dire que la nouvelle histoire travaille contre l'histoire, d'une certaine façon. Elle vise à montrer que le christianisme n'est pas historique, que c'est une très belle histoire, à la fois du concept, de la légende, de la mythologie, des sentiments, etc., mais qu'il n'y a pas d'histoire derrière. Même si de préciser quelle est cette historicité, etc., c'est tout un problème, mais il n'y a pas d'histoire derrière. Et là, on sent bien que dans la réaction très vive, il y a cette idée que non, le christianisme n'est pas une belle histoire. Le christianisme est historique. Il parle de nous, de l'Église comme des hommes. Bon. Donc ça, on le voit très bien, notamment dans cet avis de la Commission biblique de 1909, sur les trois premiers chapitres de la Genèse, en disant, ben non, on ne peut pas faire basculer tout ça dans la mythologie, dans la belle histoire, visant à nous faire comprendre des choses profondes sur la condition humaine, nos limites, les plafonnements, etc. Non, oui, il y a de ça, bien sûr, il y a de ça, il n'y a pas que ça, il y a une histoire, il s'est passé quelque chose. Ça, c'est l'écho d'événements primordiaux. D'ailleurs, c'est encore ce que dit le catéchisme. Si vous prenez votre catéchisme, relisez l'article « Péché originel » dans le catéchisme de Jean-Paul II, 1992, on dira, bon, ben, il y a toute cette histoire, avec tous ces aspects littéraires, mais derrière, c'est l'écho d'un événement primordial. C'est une histoire. Voilà. Le christianisme est une histoire, c'est pas une spéculation sur le sens de la vie humaine. Ça nous parle d'événements réels, même si c'est très compliqué, évidemment, de savoir de quoi exactement il s'agit. Donc, c'est ça l'historicisme. C'est ces trois choses-là, je crois. Le fait que l'historicité de la foi menace d'être liquidée, que l'évolutionnisme rompt les continuités dans l'histoire de l'Église, et que le naturalisme pourrait, je dirais, conduire à évacuer le surnaturel de l'histoire, d'une manière ou d'une autre. Alors, si on précise les choses en termes un petit peu, je regarde le temps qui passe, cette crise, c'est une crise européenne, mais c'est quand même surtout une crise française. L'épicentre de la crise, il est français. Il y a des modernistes en Italie, Antonio Fogazzaro, en Angleterre, le théologien anciennement jésuite George Tyrrell. Bon, il y a des noms comme ça, bon, en Italie, bon, pas mal, j'ai dit. Un peu moins, curieusement, en Allemagne, où les problèmes se posaient depuis plus longtemps qu'en France, mais dans des circonstances un peu différentes, et du coup, la crise moderniste n'est pas tellement allemande, elle est moins aiguë en Allemagne qu'en France. C'est vraiment en France que ça se passe, et notamment autour d'Alfred Loisy, mais pas seulement. Il y a d'autres auteurs, je pense par exemple quelqu'un comme Édouard Leroy, qui a été professeur au Collège de France, qui était un des grands élèves de Bergson, et qui était un catholique très convaincu, et qui lui aussi s'est fait très mal voir le magistère en publiant un article scandaleux qui s'appelait « Qu'est-ce qu'un dogme ?» où il avançait une série d'hypothèses sur la manière dont on pouvait penser la notion même de dogme tout en restant fidèle à la modernité. Bref. Donc il y avait un épicentre français. Ça nous surprend un petit peu aujourd'hui parce que la France n'a plus tout à fait dans l'Église la place qu'elle avait jadis. Il faut simplement se souvenir de choses un peu évidentes. Vous savez qu'en 1914, au moment de la crise moderniste, les trois quarts des missionnaires catholiques dans le monde sont français. La France est la première puissance catholique du monde. Hein. Aujourd'hui, c'est le Brésil, mais à l'époque, c'est la France. Tous les trois quarts des missionnaires sont français. Donc la France reste la fille aînée de l'Église. La formule est du 19e. Hein. C'était le roi de France qui était le fils aîné, mais la Révolution passant par là, la France est devenue la fille aînée. Mais de fait, elle joue un rôle très important dans l'Église, à ce stade-là, et c'est resté comme ça, j'allais dire, jusqu'en plein XXe siècle. Je le disais encore, là, pour il y a pas longtemps, le discours que le pape Paul VI a prononcé, il n'était pas sur place, mais c'était un discours radiodiffusé, lors du 8e centenaire de Notre-Dame de Paris, en 1964. Il y avait fou, là, Notre-Dame de Paris, et il a eu cette formule que les catholiques français ont attrapé au passage, dans la France cuit le pain intellectuel de la chrétienté. La France cuit le pain intellectuel de la chrétienté. Paul VI, 1964, et c'était vrai, à certains égards. Elle n'était pas seule. Le pain intellectuel de la chrétienté, il est aussi bien cuit en Allemagne, en Belgique, en Hollande. Voilà, l'Esprit Saint a quatre nationalités, bon, à ce moment-là, globalement. Si vous regardez qui a fait le Concile Vatican II, je veux dire, qui sont les grands théologiens qui, dans les commissions, ont fait... Bon, ils sont français, allemands, hollandais et belges. Voilà. Et après, il y a toujours quelques-uns, un peu autour, mais c'est là que c'est... Donc c'était vrai, c'est-à-dire que la France pesait très, très lourd sur le plan humain, sur le plan intellectuel, et en même temps, comme c'était le pays de la Révolution française, le pays de la Troisième République, où une politique de laïcisation très active, voire très agressive, se déployait depuis 1880, c'était aussi l'endroit où les problèmes les plus cruciaux se posaient. Donc c'était à la fois la fille aînée de l'Église et en même temps la zone des problèmes majeurs, voilà, à bien des égards. Et donc, c'était un problème pour Rome parce que, je dirais, c'était une périphérie, mais quand même très centrale, et très turbulente. Et c'est toujours un problème parce que des problèmes très nouveaux s'y posaient, et quand dans l'Église on a à gérer ce genre de problème, on veut éviter de donner de mauvaises idées aux autres périphéries qui n'en sont pas encore là. Et en disant, bon, ok, vous avez raison, il faut qu'on regarde ça de près, etc. Tous les autres qui ne se sont pas encore avisés qu'il y avait un problème, ce n'est pas la peine de les réveiller avant l'heure. Et c'est la grande difficulté de l'Église, c'est que c'est des mondes à l'intérieur, et qu'on ne vit pas tous exactement la même chose. On a forcément des points communs, mais... Donc là, j'allais dire pour les... Tout à l'heure, j'évoquais le problème centre-périphérie. Pour la Rome du début du XXe siècle, deux périphéries un peu dangereuses, c'est l'Allemagne et la France, où des problèmes très nouveaux se posent, qu'on cherche à régler un peu à minima, sans donner de mauvaises idées aux autres, avec ce paradoxe que je soulignais tout à l'heure, que des Français, il y en a aussi bien à Rome qu'à la périphérie. C'est-à-dire que parmi les principaux théologiens depuis 10, il y a des Français. Mais des Français, je dirais, conservateurs, qui tapent sur des Français progressistes, entre guillemets, de périphérie. Voilà, c'est règlement de compte sur les bords du Tibre par Rome interposée entre Français, à certains égards. Hein. Il y a vraiment un aspect sans périphérie. Donc c'est vraiment une crise française, à bien des égards, même s'il y a aussi des déclinaisons anglaises, italiennes, à ce moment-là. La question de la chronologie ensuite, j'ai déjà un peu évoqué. Ça démarre en 1902, quand Alfred Loisy publie l'Évangile et l'Église. Il est condamné par l'archevêque de Paris, le cardinal Richard, en 1903. Il récidive en publiant un autre petit livre en 1903 qui s'appelle « Autour d'un petit livre » où il aggrave son cas et ça va déclencher les sanctions. 1907, Pascal dit. 1908, il est excommunié. 1909, la commission biblique publie ce décret un peu massu sur la Genèse. 1910, le serment antimoderniste est exigé de tous les prêtres. On va mettre en place dans tous les diocèses des conseils de vigilance qui vont fonctionner un petit peu comme des mini-congrégations de l'index qui étudient les publications un peu scabreuses ou sulfureuses et qui les signalent. Bon, voilà. Donc l'Église se mobilise, s'équipe en quelque sorte pour faire face à la menace. Mais c'est quand même un peu plus ancien que ça, parce qu'en fait, si on regarde la chronologie en France, je dis ça démarre en 1902, en fait, on pourrait dire que ça a démarré en 1893. Ça a démarré en 1893 quand un personnage qui était le recteur de l'Institut catholique de Paris, Mgr Dulst, qui est le fondateur de l'Institut catholique de Paris, et il avait parmi ses professeurs Alfred Loisy, l'exégète Alfred Loisy, qui avait déjà des problèmes au début des années 1890. Et Mgr Dulst était un catholique libéral assez ouvert à ses problèmes et à ses difficultés, et il a publié dans la revue Le Correspondant, qui était la grande revue des catholiques libéraux du XIXe siècle, un article dans lequel il présentait le problème biblique tel qu'il se présentait à cette date, au début des années 90, en disant, voilà, il faut essayer de trouver une voie intermédiaire, il y a une ligne de crête là, à suivre entre deux excès, un conservatisme au fond très étroit, borné, qui refuserait de tenir compte des difficultés nouvelles qui ont émergé, et puis au contraire, ce qu'on n'appelait pas encore le modernisme, mais qui était déjà là. Et il dit, voilà, il faut essayer qu'on trouve une sorte de chemin intermédiaire, et nous pourrions, il suggérait de façon un peu maladroite, qu'on pourrait admettre que l'écriture est inspirée pour tout ce qui concerne la foi et les mœurs, et que tout le reste, tout ce qu'elle trimballe d'histoire, l'abandonner au contexte de l'époque. Voilà, en disant, je dirais, le périmètre de l'inspiration, c'est la foi et les mœurs, puis le reste, non. La création, les modèles, qu'est-ce qui est pas. Non, tout ça, c'est de la. On peut abandonner. Il s'est fait, ça s'est mal passé. C'est souvent comme ça. En fait, il a voulu obtenir des franchises et il a produit l'effet inverse. Ça se passe parfois comme ça dans l'Église. Hein. C'est-à-dire que vous cherchez à obtenir un peu des marges de manœuvre, du coup, vous sortez du bois. Parce que, à la limite, il faut rester tranquillement en périphérie, faire son travail, sans aller demander la validation au centre. Très périlleux de demander la validation au centre. Parce que à ce moment-là, du coup, le centre est obligé de se prononcer. Bon, c'était déjà arrivé à un personnage au début du XIXe siècle, très éminent dans l'Église de France, s'appelle Félicité de Lamennais. Félicité de Lamennais, qui était une grande figure de l'Église de France, et qui a été à Rome en 1832 pour obtenir la validation de ses thèses, et il a été condamné. Bon. Et du coup, les éléments un peu progressistes de l'Église de France ont déduit qu'il fallait mieux rester chez soi. Bon, ben, Mgr Dulst avait oublié la leçon en 1893, mais depuis 1832, de l'eau avait coulé sous les ponts, et il cherche à obtenir ses franchises, et il produit l'inverse, puisque Léon XIII répond en publiant une encyclique, qui s'appelle Providentissimus Deus, en disant pas question de valider ce système. Léon XIII ne fermait pas toutes les portes, mais c'était déjà un peu du pidis. Sur le plan biblique, il avait des positions extrêmement fermes. Donc le problème était déjà posé, en fait, depuis le début des années 1890, et il éclatera 10 ans plus tard. Alors, ça c'est, je dirais, la chronologie et l'espace. Je passe rapidement. Quelles leçons, je dirais, tirer de l'épisode ? Il y en aurait beaucoup, c'est absolument passionnant. La crise moderniste, dès qu'on regarde, les textes sont d'une actualité extraordinaire parce que les problèmes les plus fondamentaux de la foi ont été posés à cette occasion-là. Et ils n'ont pas pris une ride hein, pour la plupart d'entre eux. Et c'est pour ça que toute cette littérature, il y a eu beaucoup de publications dans les années 60, notamment de correspondances, notamment Henri de Lubac qui a publié beaucoup de correspondances de son maître Blondel et puis des disciples de Blondel, souvent des jésuites, les pères Valencin, par exemple, bon, y a vraiment là des correspondances très passionnantes, un petit peu anciennes. Donc, c'est une crise fondamentale. Alors, quelle leçon ? Je dirais, première leçon, il y a une thèse qui a cours aujourd'hui dans l'historiographie du sujet, notamment depuis la publication en 1997 d'un livre d'un philosophe qui enseignait à l'Institut catholique de Paris, qui s'appelle Pierre Collin, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui a publié un livre qui s'appelle « L'audace et le soupçon », qui est un livre sur la crise moderniste, 1997, qui est une référence, un livre très intéressant, notamment sur les aspects philosophiques de la crise moderniste, hein, le kantisme, c'était quoi le kantisme pour les catholiques à la fin du XIXe siècle, pourquoi est-ce que ça leur faisait si peur, etc. Il a publié ce bouquin, et dans ce bouquin, il dit la chose suivante, au fond, qui fera peut-être écho à ce que vous avez entendu sur le catharisme, par exemple, en disant « mais au fond, c'est une hérésie imaginaire. C'est-à-dire que, en tout cas, telle qu'elle est décrite par Pie X, non, parce qu'elle dit, elle n'existe pas. Ce que Pie X, le système que Pie X a décrit, est en fait la projection inversée du système théologique des censeurs. C'est-à-dire la scolastique un peu étroite, supposée un peu étroite des censeurs, s'est inversée dans un système monstrueux. C'est une bataille entre théologiens, en quelque sorte. Ils ont fabriqué une espèce de monstre en repartant de tous les ismes qui avaient été identifiés jusque-là. Ils ont fabriqué le modernisme. Et le modernisme, au fond, tel qu'il est décrit par Pie X dans Pascendi, ne correspond à rien. D'ailleurs, les modernistes eux-mêmes, quand on leur a montré le tendu de miroir, ils ont évidemment dit « c'est pas du tout... » que penser, mais ça fait penser au jansénisme. Hein. C'est-à-dire, moi j'ai jamais dit ça, ou alors, si je l'ai dit, vous n'avez pas compris. Et comme ces textes du magistère ne donnent jamais de nom, on peut toujours se défiler en prétendant soit avoir été visé mais à tort, soit c'est le voisin qui était visé et pas vous. Et il y a un système de défausse qui se met en place à ce moment-là. Hein. On cherche à mettre des noms. Alors, d'ailleurs, c'est significatif. Il y a ceux qui veulent mettre des noms, puis ceux qui, fidèles au magistère, ne mettent pas de nom. Non, on raisonne sur un concept, des thèses, mais pas sur des personnes. On évite de personnaliser le débat. Donc, hérésie imaginaire. Voilà. Ça, c'est la thèse de Pierre Colin. Et aujourd'hui, parmi les historiens, mes collègues, dès qu'on dit moderniste, on met des guillemets, sous-entendu, je suis conscient du fait que le moderniste, c'est une tarasque, un monstre conceptuel, fabriqué par des théologiens romains qui vivaient au centre, mais complètement à la périphérie des enjeux de la modernité, etc. Bon. Moi, je ne crois pas trop à cette thèse-là. Je ne crois pas trop à cette thèse-là, parce que, d'abord, l'idée que le censeur est la berlue intégrale me paraît un peu étrange, par principe, mais parce qu'en fait, il faut relire le texte, Pascal. Il faut regarder de près. Bien sûr qu'il y a une part d'invention de l'hérésie. L'hérésie est fabriquée par le censeur. Il la fabrique à certains égards. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'il fabrique exactement? Et là, il faut regarder les textes de très près. Alors, si vous relisez Pascendi, il y a effectivement des parties imaginaires. C'est-à-dire que le texte, son sens littéral, en quelque sorte, de l'encyclique, dit quoi? Il y a un parti moderniste, des types qui sont organisés, centralisés, en quelque sorte. Il y a un complot moderniste. Ils ont le projet de démolir l'Église catholique. Ils ont un système philosophique occulte qui n'est pas apparent, parce qu'en fait, il y a des traces de modernisme sur le plan théologique, biblique, social, spirituel. À la surface, c'est éclaté, c'est dispersé, mais derrière, il y a un système. Il y a un système philosophique qui existe. Il est caché, mais il existe. J'allais dire, ça, c'est probablement à mettre sur le compte de la grande peur qui s'est emparée du magistère à ce moment-là. Et qui a raisonné sur ce sujet comme sur d'autres, au même moment, en termes de partis, de complots et de systèmes cachés. Donc ça, admettons. Ça, c'est la part d'invention du censeur. En revanche, quand on regarde de près, les idées des modernistes, elles ne sont pas inventées. Le système, comme système complet, il est imaginaire, mais les idées, elles ne sont pas inventées. Elles sont d'autant moins inventées que quand Alfred Loisy a lu Pascendi, il s'est reconnu, très largement, dans le portrait. Quelles idées? Là aussi, il faut introduire des nuances. Les idées historiques, moi, je pense qu'elles y sont. Et Loisy s'est reconnu. Les idées philosophiques, par exemple, il est clair que dans Pascendi, Blondel est visé. Il n'est pas nommé, mais il est visé. Mais il est caricaturé complètement. Et il n'a eu pas tort de ne pas se reconnaître. Donc, de fait, là, Blondel était visé sans être nommé, mais caricaturé au point qu'on ne pouvait pas légitimement penser qu'il était en cause. Et il a pu très légitimement se raconter. Il était ébranlé au départ, hein, parce qu'il a bien compris qu'il était visé. Hein. Donc, vous lisez sa correspondance. C'est aussi tout un monde hein, où, si le magistère vous tape dessus, c'est un vrai problème psychologique, spirituel. Bon, il a pris ça très au sérieux. Mais il s'est vite convaincu que là, pour le coup, les théologiens romains n'avaient pas été bons. Donc je dirais les idées historiques, elles y sont, les idées philosophiques, elles y sont un peu moins. Mais, à mon avis, ce qu'il faut dire aussi, ça peut paraître un petit peu subtil, mais ça fait réfléchir sur, au fond, qu'est-ce que fait le censeur quand il censure? En fait, la question est double, c'est qu'est-ce qu'il entend faire, qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il croit faire, Et qu'est-ce qu'il fait réellement? C'est deux choses un petit peu différentes. Quand Pidis dit qu'il y a un système philosophique caché derrière les manifestations dispersées de modernisme, là, il délire. Il n'y a pas de système philosophique caché existant. En revanche, s'il s'agit de dire « j'ai construit, moi et mes théologiens, une sorte d'idéal type synthétique du modernisme qui peut fonctionner comme un idéal type à la Max Weber, c'est-à-dire une sorte de système qui n'existe nulle part, mais qui permet de détecter le modernisme, voilà, de le reconnaître par fraction et par morceau à l'état dispersé, alors ça oui. Moi j'ai tendance à dire que Pidis, en croyant mettre au jour un système bien réel, caché, a fabriqué un idéal type weberien qui lui a permis d'identifier des tendances modernistes bien réelles dans son contexte. Ça fait drôlement réfléchir sur le magistère. Il y a une histoire, une herméneutique historique du magistère à dresser. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait à tel moment, sachant que ce qu'il fait à l'instant T aura peut-être une signification un petit peu différente à T plus 2 ou à T plus 4, à T plus 6, vous voyez ? Et on le voit très bien dans le cas du modernisme. Moi, je trouve que le portrait synthétique du modernisme est un très bon idéal type du modernisme. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses vraies. Il y a l'historien que je suis, 1907, il y a un portrait de ce que l'encyclique appelle les opérations de l'historien. Qu'est-ce que fait l'historien quand il écrit l'histoire? Les opérations de l'historien. On croit souvent que c'est une formule de Michel de Certeau, le grand jésuite. Mais c'est pas ce qu'elle dit, c'est Pidis, les opérations d'historien. C'est pas l'opération historiographique, c'est Michel de Certeau, mais les opérations d'historien, c'est Pidis. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ben ouais, les historiens, ils bricolent. Ils ont une documentation donnée qui est déjà une sélection dans la documentation potentielle. Dans cette sélection, ils font un choix, un deuxième choix. Sur quelle base font-ils ces choix? Sur la base de critères explicites ou implicites, qui sont parfois des critères philosophiques. Et puis ensuite, ils produisent des interprétations de cette documentation, etc., etc. Autrement dit, il y a une critique épistémologique de l'histoire dite positiviste du début du siècle, dont on ne trouve pas l'équivalent ailleurs à cette date. Pidis est pionnier en matière d'épistémologie de l'histoire. Les théologiens de Pidis ont dit des choses sur l'épistémologie de l'histoire que les historiens français ont découvertes en lisant Michel de Certeau, ça c'est pas un hasard, c'est par un jésuite que ça leur est venu, ou en lisant Paul Ricoeur, ça leur est devenu par un bibliste protestant. C'est-à-dire en lisant des chrétiens, en lisant Henri Maroux, le plus grand historien de l'Antiquité chrétienne, qui était un chrétien convaincu. C'est-à-dire que c'est souvent par les chrétiens que c'est venu l'épistémologie de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à se défendre assez tôt des prétentions de cette histoire en matière biblique et l'histoire de l'Église. Et du coup, ils ont été y voir de près. Et ils ont dit, oulala, vous avez des prétentions extraordinaires, mais en fait, le coefficient d'incertitude de vos opérations, il est à 75%. Donc soyez modestes. Et ça, je veux dire, l'histoire française dite méthodique de la fin du 19e ou début du 20e siècle était très loin de soupçonner ces problèmes-là à cette date. Le fameux manuel, l'introduction aux études historiques, 1898, de Langlois et Segnobos, qui est un très grand livre, hein, un très beau livre. Bon, ben, Langlois et Segnobos auraient pu apprendre ce que c'est que l'épistémologie de l'histoire en lisant Pidis. Et ils en sont à des années-lumière. Donc ça, on ne pense pas souvent à créditer Pidis de ça, mais nous qui avons les 100 ans de recul, les choses nous apparaissent beaucoup mieux. Donc, hérésie imaginaire, j'en suis pas absolument sûr. La deuxième chose très importante, je dirais, mais le temps passe, il me reste combien de temps là?
Si on veut laisser 2 minutes pour les
questions,
ouais.
Il ne reste pas longtemps. Oui, c'est ça. Alors, je ne fais que vous les dropper comme ça. Le deuxième point important, à mon avis, c'est que dans l'historiographie, on a redécouvert, à partir des années 1950-1960, l'importance de ce que les historiens ont appelé le tiers parti de la crise moderniste. C'est-à-dire ces gens qui étaient ni des modernistes, ni des anti-modernistes, le tiers parti, comme Blondel, mais comme le père Lagrange, fondateur de l'école biblique de Jérusalem, comme Monseigneur Mignot, archevêque d'Albi, que Jean-Marie Mayer appelait l'Erasme du modernisme. Bon, vous avez des gens là qui ont pris très au sérieux les problèmes du modernisme et leur ont cherché des solutions à l'intérieur de la tradition chrétienne, quitte à réviser de fond en comble, ou très largement, le concept même de tradition chrétienne, pour donner à cette tradition des développements organiques, à la Newman, si vous voulez, dont elle était légitimement porteuse, mais qu'elle n'avait pas déplié ou déployé. Bon. Et ces gens-là, au fond, ce qu'on va appeler, je suis obligé d'aller très vite là, en courant, mais ce qu'on va appeler après la Seconde Guerre mondiale la nouvelle théologie, qui est au départ une appellation un peu polémique, mais qui correspond à des réalités, cette nouvelle théologie qui sera consacrée par le Concile Vatican II est l'enfant du tiers-parti de la crise moderniste, à bien des égards, via Lubach, Congar, en France, qui sont vraiment des gens, si vous lisez les écrits d'Yves Congar, le grand dominicain français Yves Congar, quand il lit les mémoires de Loisy, parce que Loisy a vécu assez vieux, quand il a publié ses mémoires en 1930, il dit ça, ça le fascine, et il se dit, ma mission à moi, et la mission de ma génération, c'est-à-dire les jeunes gens de 1930, ce sera de faire aboutir dans l'Église, à l'intérieur de la tradition chrétienne, les revendications légitimes des modernistes, en faisant la part des choses. Donc ce tiers parti aura une postérité très importante, mais en attendant, il a vécu évidemment un peu difficilement. Et puis, dernière chose, le modernisme ensuite fait toujours partie du vocabulaire du magistère catholique, Jean-Paul II en parlait, si vous disiez Fides et Ratio, l'encyclique sur la philosophie de Jean-Paul II, le modernisme, il emploie, lui, sans guillemets, le terme modernisme, ça existe, il l'a rencontré, bon, et donc il l'utilise. Mais, je dirais, dans l'histoire de l'Église depuis, il y a des moments où les problèmes du modernisme reviennent, les mêmes ou d'autres, sous des formes différentes, il y a des moments d'intensité plus forte de ces questions modernistes. Bon. Il y a un personnage qui a très bien vu ça, je vous lâcherai là-dessus, très beau texte, c'est Emmanuel Mounier. Vous savez qui est Emmanuel Mounier, le fondateur de la revue Esprit, en 1932, qui est mort un peu prématurément en 1950, à 40 ans. Et Emmanuel Mounier, pendant la drôle de guerre, en 1939, tous les Français étaient en attente de savoir ce qui allait se passer, il a rédigé un très beau texte sur la pensée chrétienne. Et dans la pensée chrétienne, texte rédigé dans l'hiver 1939-1940. Et il réfléchit sur la crise moderniste. En 1940, c'est déjà un peu lointain pour lui. Il n'a pas connu, mais il a vu se développer les conséquences. Et il écrit ceci qui me paraît très très juste, qui a été repris ensuite dans Feu la chrétienté en 1950. Il écrit donc en 1940, « Il serait naïf de croire qu'à la suite de ce redressement qui a suivi la crise moderniste, les problèmes qui angoissèrent la génération de nos pères ont cessé de se poser. Un barrage de difficultés s'est effondré et le centre d'intérêt s'est déplacé. Un jour, les mêmes difficultés reviendront avec des armes neuves. Ce sera l'heure d'une nouvelle crise, d'un nouvel effort. Le combat ne cessera pas de ce monde, le combat de l'intelligence chrétienne. Combat ne cessera pas de ce monde, mais on peut dire que sous les formes aiguës qu'il revêtit dans la génération précédente, celle de 1907, il est actuellement en sommeil. L'expression est belle. Il est actuellement en sommeil. Mais il reviendra. Et après, il est revenu. À bien des égards. Donc là, je crois vraiment que Mounier, 1950, c'est un de ses derniers textes, enfin 1940, 1950, voit bien ces variations d'intensité de la crise moderniste qui a soulevé un certain nombre de problèmes qui ont trouvé des solutions, et d'autres qui sont perpétuellement ressurgissants, parce que c'est des problèmes consubstantiels à l'intelligence chrétienne de la vie et du monde, et que du coup, on ne s'en débarrassera pas. Simplement, on doit affronter les vagues retournées. Voilà, je m'arrête là, pour qu'on ait quelques minutes pour discuter. Oui, c'est une vaste question, mais très fondamentale. C'est-à-dire que, moi, je dirais que c'est, à mon avis, je crois qu'il y a plus de différences que de points communs. Il y a plus de différences parce que le problème biblique est central dans la crise moderniste historique, celle de 1907. Et ce problème biblique, il a trouvé au sommet de l'Église, en 1943, dans l'encyclique Divini Afflante Spiritu de Pie XII, une solution satisfaisante qui consacrait en gros les positions en matière d'exégèse biblique du père Lagrange, le fondateur de l'école biblique. via un disciple du Père Lagrange qui s'appelle Jacques Vosté et qui est celui qui a inspiré Divino Afflante Spiritu, un de ceux. Donc le problème biblique, il est plus ou moins terminé à cette date. En tout cas, il n'est plus aussi central qu'il n'était dans la crise moderniste historique. En revanche, ce qui se développe après la Seconde Guerre mondiale, donc 1943, pendant la guerre que Pilgrimus publie son encyclique, c'est une sorte un nouveau champ qui est celui de la théologie. À noter que la crise moderniste concerne très peu la théologie. Il y a très peu de théologiens dans la crise moderniste. C'est des exégètes, des historiens de l'Église, éventuellement des historiens des sacrements, des dogmes, des historiens des dogmes au mieux, mais les théologiens proprement dit, pas tellement. Il y en avait un, c'était un Anglais, George Tyrrell, qui était le plus théologien de tous, mais ce n'est pas un problème théologique. Or, ce qu'on voit réapparaître en 1945-1946, c'est cette fameuse nouvelle théologie. C'est-à-dire l'idée que le modernisme est revenu et qu'il a produit une nouvelle déclinaison théologique qui était très peu représentée dans le modernisme historique, mais qui est le nouveau front sur lequel se joue cette bataille. En réalité, je suis obligé d'aller vite, mais en réalité, cette nouvelle théologie, c'est un nom d'oiseau, hein, au départ, et les nouveaux théologiens supposés ne s'y reconnaissent pas, mais ça, c'est le jeu. Hein. À chaque fois, on dit ah, mais, non, c'est pas moi, c'est mon voisin, ou vous m'avez pas compris. Le père de Lubac, qui est clairement visé dans Vae Generis, dit non, c'est pas moi, pas du tout. Etc. Si, c'est un peu lui quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que ces nouveaux théologiens, français en particulier, sont les enfants du tiers-parti. Sont pas les enfants du modernisme, ils sont les enfants de jeu des gens qui ont pris la mesure des problèmes et qui sont bien décidés à ne pas retomber dans les mêmes ornières. C'est à mon avis la génération d'après qui va voir revenir le modernisme. C'est pas eux, c'est celle d'après, c'est-à-dire les jeunes gens du concile qui eux n'ont pas aussi cette mémoire de la crise moderniste et de la répression antimoderniste très lourde qui a sévi jusque dans les années 20, en fait. Bon. Et c'est, je veux dire, une très belle formule de Jacques Maritain, le maître de Paul VI, dans Le Paysan de la Garonne, qui est un livre sur toute l'effervescence post-conciliaire qui se développe, livre de 1966, et il dit « Le modernisme est revenu ». Maritain, il aurait été considéré comme un nouveau théologien. Il dit « Le modernisme est revenu ». Et notre modernisme, celui de 1966, à côté de celui de Pidis, c'est un rhume des foins. C'est-à-dire qu'il est revenu sous des formes carabinées. C'est à ce moment-là qu'il revient pour moi. Ce n'est pas en 1950. 1950, il y a des milieux qui le voient revenir, mais à mon avis, c'est de l'ordre du fantasme, plus qu'autre chose.
C'est très éclairant. Oui, on revient vraiment à se poser des questions sur l'historicité du salut, ce qui est vraiment la question du modernisme. C'est vrai que ce n'est pas un peu cœur à cœur. Qu'est-ce que ça veut dire l'histoire? C'est à la fois l'événement, mais un événement déjà vécu. Pour qu'il y ait un sens, il faut le raconter, peut-être même aussi déposer une lettre, enfin, c'est très bien. Et puis, alors, il y a, je dirais, la question théologique, elle vient après, mais c'est évident que si on a un peu changé la perspective sur l'historicité du salut, notamment par le tiers parti, je me considérerais volontiers comme un lointain disciple, parce que Dondet et Lubac. Forcément, la question, qu'est-ce que c'est que la théologie, elle va bouger aussi. C'est-à-dire que la théologie a aussi une dimension historique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors, ça peut, je me dis, non, en vous entendant, je n'avais jamais pensé à ça, mais ça peut arriver que dans un deuxième temps, tout d'abord, avoir été un peu au clair sur la question biblique, avant que la question de la méthode théologique, parce que c'est ça en fait aussi qui est en jeu, apparaisse dans toute sa lumière.
Et c'est là que l'histoire et dogme de Mandel, c'est pas grave. Parce que c'est là où il dit, au fond, il va falloir qu'on repense ce que c'est que la tradition.
C'est vraiment
et ça fait la connexion entre les questions bibliques et les questions théologiques. Très bon texte. Et c'est difficile à trouver. Hein. Ça s'achète sur Amazon.
Moi, j'ai un PDF, c'est vrai que c'est intéressant. Ouais. La grosse édition des cuves, des œuvres complètes, mais évidemment, ça refroidit un peu de payer 85 € pour un truc qui fait 30 pages au milieu.
Ouais, il faut le photocopier.
On peut bien statuer. Je vais
isoler
ces trois articles en fait. Hein, c'est, ça va faire ça.
Ouais, ça fait.
C'est
bien
très bon en fait.
Mais c'est du costaud.
C'est du costaud.
Ouais.
Et c'est vraiment.
Ouais.
Ah, c'est pour mon skit, c'est dommage. c'est bien. Merci.
Eh bien, écoutez, merci de votre accueil.